fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Jacques Coquard, bonjour Françoise Thirion.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Michel Valmer.
Bonjour.
Et bonjour François. À vous aussi, chers auditeurs de JTFM qui êtes à l'écoute de notre émission de Science 89, Fantômes et Merveilles, émission une fois de plus sous-titrée Vertige et Polissonge, ou plus exactement aujourd'hui, du Théâtre des Possibles avec Armand Gatti, car nous l'avons dit précédemment, 2024. Est l'année qui commémore la naissance de ce grand poète dramaturge Armand Gatti.
Centième anniversaire.
Centième anniversaire, oui. C'est pourquoi nous poursuivons nos échanges avec Jean-Jacques Coquard, afin d'évoquer la personnalité foisonnante d'Armand Gatti.
Qui fut un des plus grands dramaturges et poètes du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Rebonjour donc Jean-Jacques Coquard.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Et quand même, on a, dans les différentes émissions que nous avons déjà diffusées, nous avons évoqué l'aspect poétique, politique d'Armand Gatti. Mais aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais que nous pointions un aspect poétique, une fois de plus, mais totalement inopiné d'Armand Gatti, qui est celui qui concerne cette rencontre du poète avec la science. Parce qu'il a travaillé autour, sinon sur, la physique quantique.
Oui, tout à fait, il n'a pas travaillé, il a travaillé autour, sur, il n'a pas fait de livre sur la physique quantique. Mais qu'est-ce qui l'intéresse sur la physique quantique ? C'est le probabilisme et le déterminisme, voilà. Et donc, c'est à partir de là, voilà, c'est la théorie du chat de Schrödinger.
Hein, ah, rappelons cette histoire-là.
Ben, le chat de Schrödinger, on y met dans une petite boîte. D'un côté, on y met du poison. Et voilà. Et donc, si le chat appuie sur une petite pédale pour que le poison vienne dans là où il est, il meurt. Mais il n'est pas obligé d'appuyer. C'est où il va appuyer, où il ne va pas appuyer. C'est le probabilisme. Voilà. Et le déterminisme, c'est de dire le chat appuie ou le chat n'appuie pas. Voilà. Donc c'est une interrogation. Et dans cette traversée, c'est ça le truc principal. Et puis il va rencontrer un certain nombre de physiciens. Il y en a certains avec qui il va devenir... ceux avec qui il va devenir ami, c'est des physiciens qui admettent l'interprétation que Gatti peut faire de la physique quantique. C'est-à-dire que je me souviens bien les deux, trois, quelques rencontres qui ont eu lieu, des physiciens qui étaient dans la stricte définition de la physique quantique, ça ne se passait pas. Gatti utilisait la mécanique quantique, oui, pour parler de choses qui n'étaient pas liées à la mécanique quantique. C'est pour lui, la mécanique quantique, c'était le langage de notre époque. Et de quoi il parlait? Il parlait de la résistance, il parlait des cathédrales, et il parlait d'un personnage qui est un philosophe, professeur à l'école normale supérieure, qui a été arrêté en 1942 ou 43 et qui a été exécuté par les Allemands, et qui était Jean Cavaillès.
Ah oui,
Jean
Cavaillès,
grand théoricien, philosophe, qui travaillait sur la physique quantique.
Oui, il travaillait sur l'équation du cinquième degré.
Voilà,
et il a été enterré quelque part. C'est sous une étiquette inconnue, numéro 5.
Oui, tout à fait.
Au Pentagone d'Arras. On a encore le nombre chiffre 5 qui intervient là. Françoise, vous vouliez dire quelque chose?
Je vais simplement citer Gatti, parce qu'il parle bon, des paradoxes. Mais par exemple, il cite Démocrite, qui a posé la question de la matière en nommant les atomes. Sa démarche était remarquablement impertinente. C'est Gatti qui écrit ça, hein, parce qu'elle a démultiplié les passerelles entre tous les domaines intellectuels. Peintre, écrivain, musicien, astronome. Tous ne pouvaient que se sentir concernés par une telle approche du monde. Or, et là on reconnaît Gatti, notre société a voulu absolument compartimenter les choses et en interdire l'accès à certains. Et refuse cette logique qui dicte que les seuls politiques, scientifiques ou hommes d'église sont en charge de penser pour nous des choses aussi graves. Mmh. Et ça définit exactement sa démarche à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Jacques?
Oui, tout à fait, mais ça définit bien sa démarche, mais ça définit aussi une chose, c'est que les mathématiques, tout ça conflue et se retrouve sur quelque chose de commun, qui est la poésie. La poésie est le centre du monde, pour Gatti, enfin du monde. C'est le centre de l'écriture. C'est avant tout, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord, quelquefois, avec notre ami Michel Valmer, quand il met en avant l'aspect politique, etc. Non, c'est pas un politique, Gatti. C'est un poète qui, effectivement, est totalement, comment dirais-je, il parle de la société, il parle de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, etc. Enfin, donc effectivement, il parle, on peut dire qu'il parle de politique, mais de politique, pardon, mais c'est avant tout un poète, c'est ça son nœud principal, enfin, je veux dire, à partir duquel il développe, oui, effectivement, il peut parler de la guerre d'Espagne, de Durruti, il peut parler de la dissidence soviétique, il n'en parle pas. Tout à l'heure, on parlait de la passion, du crapaud buffle avant-hier, je ne me rappelle plus quand. Mm-hmm. On parlait du crapaud buffle, et effectivement, c'était un des problèmes, c'est qu'on parle dans le crapaud buffle de la dictature en Amérique latine. Alors, si on réduit ça, oui, mais c'est l'écriture poétique de Gatti qui donne une autre dimension à ce texte-là et qui peut aussi donner la difficulté à l'écouter.
Je vais citer Gatti, si vous me le permettez. Comment nommer le monde? Comment nommer l'univers? Comment nommer l'homme? C'est là la poésie qui m'intéresse. Il se trouve que seul le langage possibiliste quantique est poétique. Le langage de la quantique est le langage de la poésie. On va en avoir un exemple.
Valant traverser les langages, il interroge les langages, et d'où la parole errante, qui est un magnifique témoin de ce qu'il est.
Vous entendre chanter ce langage quantico-poétique.
Comme le physicien d'aujourd'hui qui décide de la réalité de ce qu'il ne voit pas. Nous sommes comme n'importe quel totem indien, passage de l'esprit à la matière pour nous dire nos transformations seront des permutations de solutions. Les langages que nous regroupons nous font frères des noms du mur du Pentagone dans l'intelligence d'une symétrie qui nous transforme en conscience de l'univers. En elle renaît chaque matin le défi du poteau et des cinq murs qui l'entourent. Avec un mouvement viendra un pèlerinage dans les rêves d'une symétrie brisée, mais toujours combattante. À travers des enfers pavés de bonnes intentions.
Vous êtes bien sur Jet FM à l'écoute de l'émission Fantômes et Merveilles, une émission proposée par Science 89 en compagnie de Françoise Thirion et Jean-Jacques Ocarc, avec qui nous continuons d'évoquer la flamboyante personnalité d'Armand Gatti, poète, dramaturge, dont nous venons d'entendre un poème interprété par François Thirion, ici présente, comme le physicien d'aujourd'hui, car à un moment donné, Gatti avait rencontré le langage de la quantique et le langage de la poétique qui se confondaient tout à coup en son sein. D'ailleurs, il avait dit « Nous sommes tous nés de l'agonie d'une étoile » depuis très longtemps. Je n'aimerais pas que nous puissions terminer cette série d'émissions sans évoquer l'actualité, Jean-Jacques Ocarc. Mm-hmm. Alors, après, à un moment donné, il s'est installé donc à Montreuil.
Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Il y a eu la Maison de l'Arbre, très attaché aux arbres, il a donné ce nom-là. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, alors ?
La Maison de l'Arbre, enfin, c'est un double lieu, une grande maison bourgeoise, entre guillemets, vu son architecture, dans laquelle il y avait les bureaux, dans laquelle il habita, au dernier étage, et puis une grande salle à côté. La grande salle qui fait 800 mètres carrés, qui est une espèce de grand hangar, où s'y déroule une série d'activités, qui ne sont plus gérées par des gens qui sont liés à Armand Gatti, mais qui sont, disons, dans sa mouvance, voilà, on peut le dire ça comme ça. Mais la maison dans laquelle il habitait, l'idée c'est de la transformer en maison Armand Gatti, dans laquelle on gardera une partie de ses archives, les archives qui ne sont pas données à la BNF, et dans laquelle il y aura des expositions régulières. Après, ça dépendra des moyens qu'on obtiendra, mais au moins deux fois par an, deux expositions par an, et puis après qui peuvent tourner, qui peuvent aller autre part, et qui sera aussi un lieu de visite, comme pour les expositions, où des gens viendront voir, parce que ça intéresse beaucoup le ministère de la Culture, qu'on garde le bureau de Gatti en état. Voilà. Ce qui est un peu compliqué. Non pas de le garder.
Oui, parce qu'il était formidable, son bureau.
Non, voilà, non pas
avec les photos, avec les affiches, avec...
Voilà, non pas de le garder en état comme tel, parce que ça, c'est pas compliqué, mais c'est de le faire visiter. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a tellement de choses qu'effectivement, quelqu'un d'un délicat pourrait prendre quelque chose et on s'en apercevrait pas, tellement il y a de choses.
Oui, oui, c'est vrai, oui.
Voilà, donc... l'idée, c'est ça. Le propriétaire de la maison, c'est le département de la Seine-Saint-Denis. Et le département a commencé à faire toutes les études techniques nécessaires et nous a demandé d'écrire un texte. Voilà le projet culturel et patrimonial, c'est comme ça qu'il l'appelle, que l'on a écrit.
Voilà. Donc, il y aura une pérennité à cette maison. Il y aura une pérennité à l'esprit Gatti.
Voilà, on l'espère.
Eh bien oui, et tout mis en œuvre.
Alors on fait tout pour, mais après, vous savez ce que c'est. Hein,
quelque chose m'avait frappé quand j'ai rencontré Dante, Armand Gatti, parce que je travaillais avec lui, je retranscrivais, j'étais sa sorte de secrétaire. Il m'écrivait toujours « J'ai 100 ans d'avance, ma chère Nini ».
Mais c'est peut-être pour ça que le crapaud buffle n'avait pas été compris des critiques. Il écrivait peut-être en avant-garde. Et là, l'avant-garde, c'est celle qui fait le maquis.
Mais c'est pour ça que, peut-être pas le crapaud buffle, mais c'est pour ça que toutes les pièces autour de la mécanique quantique, qui ont été éditées chez Verdier, sous le titre « La traversée des langages », seront peut-être dans une quinzaine ou une vingtaine d'années plus facilement compréhensibles par des gens de théâtre.
Merci à vous, Jean-Jacques Ocquart. Merci, Françoise Thirion, d'avoir été là.
Merci, Michel Bellemer.
Notre émission s'achève, mais nous aurons le plaisir de nous retrouver, amis de Fantômes et Merveilles, pour de nouvelles aventures radiophoniques. Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt.
Fantômes et Merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.